19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. Pour animer cette émission, il y a Sophie et Chantal. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Ravie de vous retrouver. Et bonsoir également à Pierre à la technique.
Bonsoir.
Alors, dans cette émission, nous allons entendre Oksana et Ala qui représentent l'association Spodiva Ukraine Angers. Et puis nous parlerons de l'actualité des droits humains, nous découvrirons la suite des aventures d'Amidou et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais d'abord, nous commençons par l'éditorial de Sophie.
Au lendemain des résultats des élections présidentielles françaises, Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty International France, a déclaré « Le premier quinquennat n'ayant pas été exemplaire sur les droits humains, nous appelons solennellement le président de la République réélu pour un second mandat à faire en sorte que le second le soit. Nous serons particulièrement vigilants et exigeants pour que les politiques menées par le président, en France comme à l'international, soient respectueuses des droits fondamentaux et du droit international. »
Alors Amnesty a fait un certain nombre de rappels à l'ordre. Alors est-ce que tu peux nous en dire certains ?
Alors que la collecte des preuves de potentiels crimes de guerre est engagée en Ukraine et que plusieurs États européens ont récemment pu juger des criminels de guerre syriens au nom de la compétence universelle, il est temps en France d'effectuer les adaptations nécessaires pour se donner tous les moyens juridiques de juger en France les auteurs présumés de crimes internationaux. Autre demande, que la France mette un terme à l'opacité de ses ventes d'armes et instaure un réel contrôle parlementaire. D'autre part, nous demandons que les 200 enfants français détenus en Syrie, au mépris de toutes les règles de droit, puissent être rapatriés sans délai, ce vers quoi s'acheminent de plus en plus les États européens.
Et qu'en est-il pour les personnes exilées ?
Si nous saluons la manière dont ces dernières semaines en France, les réfugiés ukrainiens ont été accueillis, la situation des personnes exilées s'est toutefois dégradée ces 5 dernières années, notamment dans le Calaisie et à la frontière avec l'Italie. Que ce soit sur son territoire, dans le cadre européen et international, ou en lien avec ses accords avec le Royaume-Uni, nous appelons la France à ne pas considérer les personnes qui fuient les conflits et les persécutions comme des flux migratoires irréguliers et à leur donner accès à la protection à laquelle elles ont droit.
Et en ce qui concerne la lutte contre les discriminations,
constatant l'inaction des autorités françaises dans la lutte contre les contrôles d'identité discriminatoires, 6 ONG, dont Amnesty, ont ainsi saisi le Conseil d'État en juillet dernier afin que la justice contraigne l'État à agir. Le président réélu doit absolument prendre la mesure des conséquences désastreuses de telles discriminations et entamer une réforme en profondeur des pratiques policières. Nous lui demandons de s'engager à abroger les mesures que nous avions dénoncées dans certaines lois qui favorisent un amalgame dangereux entre islam et terrorisme et comportent des risques d'application discriminatoire à l'encontre des personnes musulmanes.
Et concernant le droit de manifester ?
Oui, les 5 dernières années ont été marquées par des atteintes à la liberté de manifester pacifiquement en France. Non seulement les manifestants ont été exposés à un usage excessif de la force, mais les autorités ont aussi instrumentalisé des lois contraires au droit international pour verbaliser, arrêter arbitrairement et poursuivre en justice des personnes n'ayant commis aucune violence. Amnesty demande une réforme structurelle des stratégies de maintien de l'ordre afin de favoriser des logiques de concertation et de désescalade plutôt que de confrontation et de répression. Les dispositions trop vagues de certaines lois doivent être abrogées car elles ouvrent la voie à l'arbitraire. Nous demandons aussi que le recours aux grenades assourdissantes et de désencerclement soit interdit et que l'usage des LBD 40 soit suspendu.
Et enfin, les derniers sujets brûlants.
Le futur gouvernement devra également veiller à ce que les progrès technologiques soient rigoureusement encadrés pour ne pas faire basculer nos sociétés dans la surveillance de masse. Entre autres, l'utilisation des drones par les forces de l'ordre pour surveiller les manifestations. Concernant le climat, le président ne doit pas oublier que la France a été condamnée en 2021 par le tribunal administratif de Paris pour son inaction climatique. Il devra tout faire pour que la France atteigne la neutralité carbone en 2050 et peser sur la scène internationale en faveur d'une action immédiate et d'une ampleur planétaire face à une urgence climatique qui menace l'humanité tout entière. Amnesty sera vigilante exigeante sur le respect des droits humains qui ne doivent jamais être sacrifiés au bénéfice d'intérêts économiques ou stratégiques. Pour ce nouveau mandat, les droits humains doivent devenir une priorité.
Merci Sophie. Et vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et c'est maintenant le temps d'accueillir Oksana et Ala de l'association Spodiva Ukraine Angers. Merci d'être là avec nous.
Merci, bonjour.
Bonjour.
On dit comment bonjour en ukrainien ?
Dobry den.
Oh. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter votre association, bien sûr.
Alors, je m'appelle Oksana. Ça fait 10 ans que je suis en France. J'ai le doctorat en chimie. J'ai travaillé dans les différentes universités en France. Là, je travaille à l'école de chimie à Angers et je suis le vice-président de l'association ukrainien Spodiva Ukraine Angers.
Bonjour, je m'appelle Ala, je suis doctorante en chimie. Ça fait presque 5 ans que j'habite sur Angers. Et aussi, je fais partie de l'association Spodiva Ukraine Angers. Et moi, je travaille dans le domaine informatique, dans cette association.
Alors l'association, quand est-ce qu'elle a été créée ?
Alors déjà, Spodiva, ça veut dire l'espoir. En fait, c'est le diminutif de Spodivania, qui va dire espoir en ukrainien. Donc l'association, elle a été créée il y a presque 2 mois. Sur Angers, en fait, juste suite à l'événement qui se sont déroulé en Ukraine. Et du coup, en fait, l'objectif de l'association, au début, c'était première aide, première accueil des Ukrainiens réfugiés dans le département Maine-et-Loire. Et puis après, on essaye de s'expandre un peu vers l'aide humanitaire. On essaye de récolter, en fait, tout ce qu'ils ont besoin déjà des réfugiés sur place, mais aussi en Ukraine. Et aussi, en fait, de leur aider de s'adapter en France avec les cours de français ou avec, là, on travaille beaucoup sur recherche d'emploi. Alors, c'est beaucoup pour l'instant des emplois saisonnières parce que c'est ce qui ne demande pas de parler la langue, mais il y aura, on espère, bien d'autres choses. On participe aussi à organiser des manifestations au centre d'Angers parce que c'est important aussi de se faire entendre et de parler autour de nous de ce qui se passe en Ukraine. Voilà.
Donc, votre association, elle a été créée par des Ukrainiens et Ukrainiennes installés en France déjà, mais il y a des Ukrainiens d'Ukraine qui sont venus se rajouter dans l'association, je suppose.
C'est tout à fait ça. Il y a quelques aussi des Français qui sont bénévoles dans l'association, parce que bien évidemment, l'association, elle ne peut pas exister que clairement sur des Ukrainiens, parce que malheureusement, les Ukrainiens qui sont quand même bilingues, on n'a pas énormément, parce qu'il n'y a pas autant de personnes, malheureusement, qui sont prêtes à se engager pour l'instant dans l'association. On ne les a pas trouvées.
Et est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a de réfugiés ukrainiens dans le Maine-et-Loire ?
En ce moment, on a plus que 600 Ukrainiennes, les femmes et les enfants, qui sont venus cette année-là. Et aussi, on a des Ukrainiens qui étaient venus à les premières vagues en 2014. Et aussi, ce qui est important, c'est la question des logements pour eux. Maintenant, c'est assez difficile à organiser. Et c'est ça qui les enjeux vont pour engager et pour proposer ce logement pour les réfugiés. Très important.
Autre chose sur les derniers arrivants, peut-être. Je crois que des personnes, évidemment, sont arrivées et puis certaines sont reparties lorsque la guerre s'est déplacée plus à l'est, c'est ça ?
Oui, là.
Les personnes sont reparties en Ukraine.
Oui, là, au début, en fait, il y a pas mal de gens qui sont venus aussi de l'Ukraine centrale, qui ont, en fait, les régions qui ont été envahies dès le départ. Et là, en fait, même si notre gouvernement, il dit faites attention, ne revenez pas parce que ça peut encore retourner, en fait, mais les Ukrainiens, ils ne les suivent pas parce que c'est tout à fait compréhensible, parce que les gens, ils latent. C'est comme disait Allah, c'est très, très majoritairement des femmes avec les enfants. Ils ont laissé leur papa, leur frère, leur père, etc. en Ukraine et ils hâtent de les retrouver.
Ils ont hâte de les retrouver.
Et aussi, juste qu'on a oublié tout à l'heure, notre rôle aussi avec Allah dans l'association, c'est le rôle de communication. Ça veut dire qu'on intervient aussi auprès de la, par exemple, des lycées David d'Angers. On a fait quelques interventions pour expliquer aux élèves en fait ce qui se passe en Ukraine, pour expliquer en fait d'où vient, c'est quoi les raisons de conflit, pourquoi les Russies elles veulent récupérer l'Ukraine, etc., etc. Donc en fait pour nous c'est un point très important de sensibiliser les Français aussi à l'histoire de l'Ukraine.
Et avez-vous des dernières nouvelles ?
venant l'Ukraine.
Venant d'Ukraine, oui.
Là, le conflit, il est plutôt localisé parce que je pense, en fait, au début, il essayait d'envisager d'envahir toute l'Ukraine entière. Alors là, il essaye de se concentrer sur la région de l'Ouest, en fait, près de la frontière russe. Et surtout, il essaye de s'assurer, en fait, le lien direct par la terre entre la Russie et le Crimée, en fait. Pas par, en passant par le pont qu'ils ont construit. Et du coup, là, malheureusement, certaines villes, ils ont été occupées. Alors, c'est même pas qu'on l'espère, on les croit sincèrement, en fait, que c'est que pendant un temps donné, on attend et on espère l'arrivée des armes d'Europe et du monde entier qui nous aidera de reprendre ces territoires.
Et alors, est-ce qu'il y a des actions en cours? Alors là, vous nous avez fait une liste, c'est remarquable, hein, parce que en peu de temps, vous avez réussi à monter une association qui aide de façon vraiment très concrète. Il y a des cours, il y a des logements, il y a le travail, parce que les sous, je suppose que c'est un problème. Quelles sont les actions vous voudriez vraiment mettre en valeur de façon à peut-être que nos auditeurs et auditrices puissent vous contacter ensuite?
Ça, comme Oksana a déjà dit, c'est tout d'abord aide au niveau des logements, aide au niveau, vous pouvez faire les dons, c'est aussi important. Si vous pouvez, c'est l'aide au niveau des démarches administratives. Les documents, c'est difficile à organiser pour cet nombre de gens. Vous pouvez travailler comme bénévole pour association ou pour, par exemple, donner l'aide humanitaire, le triage humanitaire, bien sûr, trouver le travail. Et aussi, ce qui est important, c'est partager information concernant l'Ukraine. Car on a la guerre sur le territoire de l'Ukraine, mais aussi on a une guerre informatique. Et c'est vrai que le gouvernement russe dépense énormément d'argent pour la propagande, pour créer énormément de fakes, de fausses informations sur les Ukrainiens. Et toutes ces fakes sont contradictoires, c'est juste pour cacher la vérité. Et ce que chacun peut faire, c'est tout d'abord vérifier toutes les sources d'informations, ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, regarder d'où cet article vient, ce qui est la première source, vérifier et comparer différentes opinions des différentes sources informatiques et aussi partager les vraies informations sur l'Ukraine, ce qui est important pour nous, puisque ce sera toujours actuel, puisque les gens n'oublient pas ce qui se passe en Ukraine et puisque les gens peuvent toujours aider, par exemple, comme signer les pétitions pour les Ukrainiens comme pour Mariupol en ce moment-là et aussi partager de vraies informations.
Mm-hmm. Est-ce que vous avez trouvé que vous aviez été bien accueillis en France ou plus précisément dans le Maine-et-Loire?
Des réfugiés ou nous-mêmes?
Pardon, alors je parlais des... Est-ce que vous avez trouvé que les réfugiés, là, sont bien accueillis?
Ah oui,
vous, c'est sûr, mais oui. Par le reste, justement, de la population. Est-ce que ces fake news ont peut-être eu une influence négative sur l'accueil?
Oui, là, même des Ukrainiens, en fait, des réfugiés, quand on parle avec eux, ils trouvent qu'en fait, ils ont été de manière générale très, très bien accueillis en France. Ils disent que les gens, ils sont très bienveillants et ils les remercient énormément parce que c'est vrai que pour le coup la France elle est comme le monde entier, heureusement en fait ils sont tous bien solidaires avec l'Ukraine et c'est pour ça aussi qu'on essaye de mener aussi des actions aussi de promotion de l'Ukraine, de montrer parce que soyons clairs, l'Ukraine avant surtout 2014, les Français normaux soi-disant, ils n'ont été pas très sensibilisés au sujet de l'Ukraine, ni où est-ce que se trouve, c'était oui de l'Europe de l'Ouest. Mais est-ce que c'était précisément que la taille de l'Ukraine, c'est comme la taille de la France, etc. Les gens, en fait, même plus grande que la taille de France d'Hexagone, en fait, les gens, ils ne savaient pas du tout. Et du coup, en fait, rôle, c'est aussi de parler,
de faire connaître
notre pays auprès de la monde entière. Et en fait, par rapport tout à l'heure, par rapport aux actions et comment vous pouvez nous aider, c'est vrai que vous pouvez aller soit sur le site internet, tout simplement, soit sur le site de Facebook en tapant Spodiva Ukraine Angers,
S-P-O-D-I-V-A
Ukraine Angers, Et dans la rubrique contact, vous avez plusieurs possibilités, en fait, comment vous voulez aider aux Ukrainiens avec nom, prénom, etc. Tout est enregistré. On essaye au maximum de lire vos messages. Donc, vous êtes tous bienvenus avec n'importe quelle participation.
Vous parliez de dons. C'est des dons en liquide, des dons alimentaires, en vêtements?
Les vêtements, pour l'instant, en fait, pour l'Ukraine, on a arrêté un peu de collecter. À part, en fait, on continue toujours d'accepter quelques vêtements, en fait, pour des réfugiés qui arrivent fraîchement dans la région. Mais sinon, en fait, c'est beaucoup d'aide alimentaire, c'est des médicaments, etc. En fait,
c'est pour envoyer ou c'est pour les gens qui arrivent?
Alors, c'est aussi, par exemple, des objets de première nécessité. Donc ça, les gens, en fait, ils peuvent se servir aussi ici, mais pour envoyer également, en fait. Oui. Alors, pour l'instant, on est en place de voir, on essaye de voir pour récupérer un gros lieu de stockage, là où on pourrait, et après, on va, en fait, contacter, on a quelques contacts, en fait, des volontaires sur place en Ukraine pour pouvoir acheminer, en fait,
les stocks,
et surtout que ça aille jusqu'à les territoires dangereux, soi-disant, de l'Ukraine, parce que c'est facile de les acheminer jusqu'à Lviv, mais d'aller à Donetsk, Lugansk, c'est une autre histoire.
Bien sûr. Donc, il faut rappeler aussi que chaque samedi après-midi, à 15h, on a rendez-vous.
Oui, bien évidemment, en fait, si vous pouvez, en fait, c'est une de manières de nous soutenir, c'est venir à notre manifestation. Donc, on essaye de se réunir pratiquement tous les samedis l'après-midi à 15h sur la place de ralliement. Donc, n'hésitez pas de venir, n'hésitez pas à nous soutenir. On essaiera aussi d'organiser les concerts si possible. C'est pour ça qu'on vous a réservé, on vous a ramené une petite chanson ukrainienne pour donner un genre.
On va parler tout de suite.
D'avant-goût, en fait, de la culture ukrainienne pour vous montrer qu'on existe comme nation et qu'on a notre propre culture qui est bien différente de celle de la Russie.
Tout à fait. Et d'ailleurs, pour notre pause musicale, donc, cette chanson ukrainienne que vous nous avez choisie, qui est magnifique. Alors, l'artiste, je ne la connaissais pas, elle s'appelle Kristina Soloviy, c'est bien
tout
ça
à fait.
Elle a une voix magnifique, ça c'est certain, c'est très sympa. Ouais. Alors, le titre en français, « Je suis ton arme », et en ukrainien.
En ukrainien, c'est « Я твоя зброя ».
Merci beaucoup.
Себе, мама, пробач. У погоні за мріями ми кохали, та зараз інші часи. І в нас нові ритуали тепер. Лаштую зброю на випадок війни. Я несу мир.
chanson. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Oui, très beau.
Eh bien, vous êtes toujours sur Radio G101.5 FM et c'est le moment des actualités des droits humains. Et d'abord, la Russie, Chantal.
Non à la guerre. C'est l'un des slogans scandés par les manifestants de la place Rouge à Moscou, des places centrales de Saint-Pétersbourg et de dizaines d'autres villes partout en Russie. À cette opposition à la guerre, la police répond par une vague d'arrestations arbitraires et souvent brutales. Même des enfants participant au rassemblement ont été arrêtés. Plus de 100 selon l'ONG OVD Info. Porter des ballons aux couleurs de l'Ukraine, arrestation. Écrire non à la guerre dans la neige, arrestation. Applaudir ou passer à côté d'une manifestation, arrestation. Tenir une pancarte blanche sans aucun message de protestation, arrestation.
Ouais, c'est dingue.
La photo de Sheila Lumumba se multiplie sur les réseaux sociaux kényans et propage avec elle le message de désespoir et de colère de la communauté LGBT+. La jeune personne de 25 ans était non-binaire, lesbienne et se désignait par les pronoms il, elle. C'est peut-être bien la raison de son assassinat le 17 avril dernier. Son corps a été retrouvé dans une mare de sang à son domicile, dans le centre du Kenya. Le rapport d'autopsie fait froid dans le dos. Dans la crainte de voir l'affaire passer sous silence, la famille et les associations de défense des minorités sexuelles s'impatientent et une pétition pour une enquête transparente et l'arrestation des coupables a été lancée.
Dans le sud de l'Angola, pas moins de 6 millions de personnes sont sous-alimentées. Elles sont victimes à la fois des effets dévastateurs du règlement climatique, mais également de l'affectation de terres pour l'élevage commercial de bétail. Pour survivre, les populations pastorales n'ont d'autre choix que de fuir. La faim a déjà conduit des milliers de personnes à se déplacer et à traverser la frontière avec la Namibie, abandonnant tout derrière eux. La situation nous rappelle cruellement que le dérèglement climatique est une réalité et cause déjà des souffrances et des décès.
La justice britannique a ordonné l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. C'est maintenant à la ministre de l'Intérieur britannique, Priti Patel, de certifier la demande d'extradition. Si c'est le cas, Julian Assange risque la torture et la prison à vie. Un signal extrêmement inquiétant pour la liberté de la presse, à nouveau. Et plus que jamais, mobilisons-nous pour obtenir l'abandon des charges retenues contre Julian Assange et sa libération immédiate. Nous lui devons des révélations cruciales d'intérêt public. En diffusant plus de 750 000 documents classés confidentiels par les États-Unis, le fondateur de Wikileaks a pointé de possibles crimes de guerre commis par l'armée américaine. Depuis, le gouvernement américain le poursuit sans répit.
Donner à chacun le pouvoir de créer et de partager des idées et des informations instantanément et sans entrave. C'est la promesse d'Elon Musk qui vient de racheter Twitter. Mais dans les faits, qu'en est-il? La réalité est tout autre. Malgré nos nombreuses alertes, les femmes et les groupes marginalisés sont toujours exposés à un risque élevé de violence en ligne. En 2018, nous avions adressé à Twitter 10 recommandations réparties en 4 catégories pour lutter contre ces violences. Sur ces 10 recommandations, Twitter n'en a mis en œuvre qu'une seule.
Le 6 avril 2022, avec Human Rights Watch, nous avons rendu public un rapport intitulé « Éthiopie, nettoyage ethnique dans le Tigré occidental ». Les autorités nouvellement nommées dans l'ouest du Tigré et les forces de sécurité de la région Amhara, voisine, ont, avec l'assentiment et la possible participation des forces fédérales éthiopiennes, expulsé de façon systématique plusieurs centaines de milliers de civils tigréens de leur domicile en ayant recours à des menaces, des homicides illégaux, des violences sexuelles, l'utilisation massive de détentions arbitraires, de pillages, de transferts forcés et la privation d'aide humanitaire. Il s'agit bien là de crimes contre l'humanité. Nos deux organisations appellent au déploiement de toute urgence d'une force internationale de maintien de la paix sous l'égide de l'Union africaine.
Plus de 1500, c'est le nombre d'écolières et d'écoliers qui ont été enlevés par des groupes armés depuis 2014 au Nigeria. Au moins 120 demeurent en captivité. Ce sont pour la plupart des filles et on ignore quel sort leur est réservé. Les autorités nigérianes n'ont pas tiré les leçons de l'enlèvement des lycéennes de Chibok par Boko Haram il y a 8 ans. Leur recrudescence génère également des fermetures prolongées d'établissements scolaires. Ainsi, dans les régions touchées, nous constatons une baisse des inscriptions et de l'assiduité à l'école, ainsi qu'une hausse des mariages d'enfants et des grossesses chez les filles en âge d'être scolarisées.
Et pour finir, une bonne nouvelle. L'activiste et poète saoudien Raif Badawi a été libéré le 11 mars après avoir purgé une peine de 10 ans de prison. C'est en juin 2012 que Raif Badawi avait été arrêté et placé en détention pour insulte à l'islam. Mais en réalité, c'était pour avoir créé un blog invitant à débattre des questions sociales et politiques. Aujourd'hui, bien que libéré, Raif Badawi est soumis à une interdiction de quitter le pays pendant 10 ans. Cela signifie que Raif va être à nouveau séparé de sa famille pendant 10 années supplémentaires. Sa femme et ses 3 enfants vivent au Canada depuis 2013.
Et nous allons découvrir la nouvelle chronique de Céline. Elle nous conte en plusieurs épisodes l'épopée d'Amidou, un jeune migrant ivoirien. Nous l'avions laissé en Algérie en attente de sa traversée de la Méditerranée. Voici la suite de son histoire.
Bonsoir Valérie. Dans le parcours des chroniques qui évoquent l'exil d'Amidou, celle-ci a une saveur particulière. Pour l'expliquer, il faut que nos auditeurs sachent que j'écris cette histoire parce qu'Amidou me la raconte, ou plutôt me l'écrit. Cependant, celle-ci, celle qui évoque la traversée entre l'Afrique et l'Europe, celle-ci n'est pas issue d'un écrit, mais d'un échange entre lui et moi. Un échange hors du temps, suspendu aux émotions fortes qui ressurgissent et rythmé des silences qui laissent la pensée s'échapper. Parce qu'y a-t-il des mots assez forts et explicites pour décrire ce qu'il a vécu ? Comment dire ? L'embarquement rapide, précipité, impalpable, la course sur la plage, l'entassement des corps et en même temps l'excitation du départ, l'espoir ancré au plus profond, le soulagement et l'angoisse mêlée d'une centaine de personnes. Mesure-t-on cet instant qui précède le départ ? Et puis, il y a la mer, inquiétante, immense, l'eau partout, jusqu'au fond du bateau que certains rejettent à l'aide de seaux. Il y a le bruit, les bruits, clapotis, respirations, cris, pleurs des enfants ou des adultes, discussions vives ou chuchotements, prières et le bruit vital du moteur. Il y a, dans les souvenirs d'Amidou, la lenteur du bateau, du temps, l'immobilité du corps, des corps, la lourdeur des vêtements mouillés, le goût du sel, des biscuits et de la petite bouteille d'eau, l'odeur du vomi et le mal de mer, parce que tous ont le mal de mer. Dans les silences d'Amidou, j'ai entendu la terreur qui s'insinue et la vie qui s'accroche. J'ai entendu le ciel et la mer qui se confondent et les larmes de voir la bande de terre qui apparaît et la joie qui éclate. J'ai entendu les enfants dans les bras de leur mère, les jeunes femmes et hommes partis tout seuls comme lui. J'ai entendu les visages et les regards de ceux qui ont traversé avec lui et qu'il ne reverra pas une fois en Europe. J'ai entendu son sourire incroyable d'être arrivé.
Voilà la nouvelle chronique et on a hâte de découvrir l'arrivée d'Amidou en France. Ça sera pour notre émission du mois de juin. C'est le temps de notre agenda militant et culturel.
Samedi 14, c'est la Pride à Angers. Le village ouvrira dès 11h à Cœur de Maine. La marche des fiertés démarrera à 14h et à 18h, ce sera le Bifort au bar L'Entre-deux, rue Lyonnaise. Et la fameuse Pride Night commencera à 23h au Chabada. Soyons nombreuses et nombreux pour soutenir les droits LGBTI+.
Et le 17 mai, journée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, est organisée au 400 coups, un cinédoc avec le film « Nos corps sont vos corps de bataille ». Ce documentaire franco-argentin dépeint les trajets de deux femmes trans dans leur cheminement politique et leur vie intime. La réalisatrice sera présente à cette soirée qui est organisée en collaboration par Cinéma Parlant et par Quasar, centre LGBTI+, d'Angers et du Maine-et-Loire. Autre cinédoc le 7 juin au 400 coups, toujours organisé par Cinéma Parlant et par Quasar, c'est un documentaire qui s'appelle « Un visa pour la liberté, Mr. Gay Syria ». Le réalisateur turc Isay Toprak suit le parcours d'Hussein, un Syrien homosexuel exilé en Turquie. Il va décider de participer au concours de Mr. Gay World en Europe afin de sensibiliser le monde à la situation des personnes LGBT en Syrie. Et il est déjà presque 19h30, le temps de conclure cette émission et de remercier Oksana et Ala pour leur venue à l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook sur la page d'Amnesty Angers. Bonne soirée et surtout, vivons joyeux.
À bientôt.
Bonne soirée.
Au revoir.